Les chroniques du patrimoine sur Demoiselle, avec Olivier Marvaux.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nos chroniques mettent le cap sur le patrimoine maritime. Nous filons naviguer sur le plus vaste estuaire d'Europe, l'estuaire de la Gironde, pour évoquer l'histoire du bac entre Royan et la Pointe de Grave, sur la commune du Verdon. Le bac ne restant jamais le soir à l'embarcadère de Royan, son port d'attache se situe sur la rive gauche de l'estuaire, dans le département voisin de la Gironde, plus précisément à Port-Bloc. C'est également à Port-Bloc que sont basés les pilotes de la Gironde, chargés de guider les navires de fort tonnage entrant dans l'estuaire pour poursuivre leur navigation en direction de Bordeaux. Port-Bloc est aussi le port d'attache du bateau chargé d'assurer la relève des gardiens du phare de Cordouan. Jusqu'à la dernière partie du 19e siècle, ce sont des pêcheurs avec des canots à rames ou de petites embarcations à voile qui assurent la traversée de la Gironde, longue d'environ 6 km. Rien n'est très organisé, bien sûr. Le voyageur intrépide doit s'adapter aux horaires de pêche et donc aux mouvements de marée. Il faudra attendre l'arrivée du chemin de fer en provenance de Bordeaux au Verdon en 1875, puis en 1902 à la Pointe de Grave, pour qu'un service digne de ce nom se mette en place progressivement. L'objectif étant de désenclaver le Nord Médoc et de faciliter les échanges de passagers, mais aussi de marchandises, entre les deux rives. À partir des années 1880, ce sont des bateaux à vapeur, des steamers, qui assurent la traversée de l'estuaire. Citons par exemple le Goéland ou encore la Magicienne, tout un poème. Mais il faut attendre des travaux à Port-Bloc à partir de 1928 pour qu'un service régulier se mette en place entre Royan et la Pointe de Grave. Il est inauguré en 1929. Le premier bac transportant des voitures est enfin lancé. Le Cordouan, c'était son nom, peut alors transporter une vingtaine de véhicules et 150 passagers. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'occupant allemand le rebaptise la Tortue et l'utilise comme mouilleur de mines. Le navire est sabordé à la fin de la guerre, puis renfloué. Il restera actif jusqu'en 1960. Avec l'augmentation constante du trafic entre les deux rives de l'estuaire, vers la fin des années 50, un deuxième bac est mis en service, le Côte d'Argent, qui pouvait emporter 60 véhicules et filer à 11 nœuds. Plus tard, et jusqu'au tournant du 21e siècle, ce sont trois bateaux, le Verdon, la Gironde et le Médoquin, qui constituent la nouvelle flotte des bacs. Enfin, en 2002, avec un bateau baptisé lui aussi la Gironde, puis en 2009 avec l'estuaire, ce sont deux bacs amphidromes qui vont prendre progressivement le relais, représentant une petite révolution dans l'histoire de la traversée. En effet, non seulement ces deux navires, longs de 71 mètres, ont la capacité d'emporter de 140 à 150 véhicules, selon leur tonnage et jusqu'à 600 passagers, mais ils permettent aussi une rotation plus rapide des bacs les jours de forte affluence, notamment les samedis de pleine saison, avec le chassé-croisé des vacanciers. Le principe du bac amphidrome, c'est que l'avant est similaire à l'arrière, une caractéristique qui fait souvent perdre le sens de l'orientation à certains passagers au moment du débarquement. Le bac amphidrome dispose d'une cabine à double poste de commande. Il a la capacité de se déplacer indifféremment vers l'avant ou vers l'arrière et peut filer jusqu'à 14 nœuds en pointe. Ce système simplifie et accélère considérablement les manœuvres de mise à quai et bien sûr le chargement ou le déchargement des passagers et des véhicules. Au-delà de son aspect pratique incontestable, le bac permet de rallier le Nord Médoc, le Verdon, Soulac-sur-Mer, l'Espart-Médoc ou encore Pauillac, sans faire le détour par l'agglomération bordelaise et ses célèbres bouchons. Le bac est aussi une façon originale et plaisante de découvrir les rives droites et gauches de l'estuaire depuis le large et de prendre toute la mesure de la beauté d'un décor exceptionnel. Quand on quitte l'embarcadère de Royan, à deux pas du port de Plaisance, un magnifique panorama s'ouvre sur la Grande Conche, permettant d'admirer les villas et les hôtels particuliers de la Belle Époque, rescapés des bombardements de 1945. Ensuite se détachent la pointe et le phare de Vallières, la plage de Saint-Georges-de-Didonne, la pointe de Suzac, les falaises et les plages de Méché. Plus loin, Talmont et son église Sainte-Radegonde, cramponnées aux rochers, puis les falaises de Barzan dans le lointain qui ont souvent l'aspect de silhouettes fantomatiques, voilées par la brume. Derrière nous se détache le front de mer de Royan, l'église Notre-Dame, le quartier de Foncillon avec le magnifique palais des congrès, on dit désormais le palais depuis qu'il a retrouvé son aspect d'origine de l'année 1957. Puis en regardant vers le nord et le nord-ouest, on voit le fort Duchet. Plus loin, la plage de Pontaillac, le bois des Fées à Vaux-sur-Mer, Saint-Palais et son vieux clocher, le phare de Terre-Nègre et par temps clair, la Grande Côte, la baie de Bonance et le phare de la Coubre, situé à un peu moins de 20 km. Quand on se tourne vers la Pointe de Grave sur la rive gauche, on aperçoit les grues du port du Verdon, puis face à nous, Port-Bloc, près duquel se situe le fort du Verdon, qui a été le théâtre d'âpres combats lors de la libération de la poche de la Pointe de Grave en avril 1945. On aperçoit aussi le sémaphore et le phare de Graves. C'est à la pointe de Graves qu'une stèle, posée après la Deuxième Guerre mondiale, rappelle, je cite, « qu'ici s'élevait le monument érigé à la gloire des Américains, aux soldats du général Pershing, défenseurs du même idéal de droit et de liberté, qui conduisit en Amérique Lafayette et ses volontaires, partis de ce rivage en 1777. » Fin de citation. L'occasion de rappeler que Lafayette a bien fait escale à la pointe de Graves, sur la rive gauche de l'estuaire de la Gironde. Et bien sûr, tout au long de la traversée, le bac a comme fidèle compagnon de route le phare de Cordouan, souvent cité dans nos chroniques, le phare des rois, le roi des phares, le Versailles des mers, dont la silhouette se détache à quelques kilomètres au large. Mais aussi des goélands qui viennent couper le vent et font du vol stationnaire au-dessus du bac, comme pour y trouver un peu de repos pour le plus grand bonheur des amateurs de photos. En pleine saison, les deux bacs amphidromes sont en service simultanément et se croisent à mi-parcours environ. Les rotations sont continues. Même en plein hiver, 7 allers-retours sont désormais assurés, 7 jours sur 7 à horaire fixe, avec une précision de chef de gare. La traversée dure une vingtaine de minutes, on souhaiterait que ça dure un peu plus longtemps, tant la bouffée d'oxygène est vivifiante, tant le dépaysement est total. On peut voyager dehors ou à l'intérieur selon son humeur et les caprices du temps. Avis aux amateurs de café ou de petites collations pendant le voyage, le bac est équipé de son propre bar. L'été, on aperçoit régulièrement des pilotes de jet-ski qui profitent de la vague de poupe pour se procurer des sensations fortes, en chevauchant l'écume. Pendant la traversée, vous croiserez peut-être quelques chalutiers, des voiliers, des cargos, et à la belle saison, des paquebots de retour de leur escale à Bordeaux, qui partent pour un voyage au long cours vers le Nouveau Monde, à destination de Québec ou de New York, ou qui filent vers les ports méditerranéens, par le détroit Gibraltar. Vous apercevrez peut-être aussi le Cyrano de Bergerac, un navire de croisière fluviale basé à Bordeaux, qui vient régulièrement accoster sur le quai des Sabliers à Royan. Ce bateau a dû effectuer un véritable parcours du combattant pour obtenir toutes les homologations requises afin de pouvoir naviguer entre l'estuaire et les prémices de l'océan. À bord, un houlographe permet de s'assurer que les conditions de navigation sont favorables pour atteindre Royan ou en repartir. Au fil des décennies, certains auront eu le plaisir de croiser, en traversant l'estuaire, de prestigieux navires comme le paquebot France, renommé le Norway, qui est passé par là, ou encore le Belém et bien sûr l'Hermione. Les plus chanceux pourront peut-être observer quelques dauphins ou marsouins, ou le passage de nuées d'oiseaux migrateurs, des oies, des cigognes. À bord du bac, en plus du personnel chargé du service, des manœuvres ou encore de l'entretien des machines, que nous saluons ici, toutes sortes de voyageurs se côtoient. On croise les clients d'un jour, partant en vacances ou en balade, comme les habitués, ceux qui effectuent la traversée tous les jours pour aller travailler de part et d'autre de l'estuaire, prenant le bac comme d'autres prennent le bus, le TER ou le métro. Ils ont leur place préférée, profitent parfois de la traversée pour caler une petite sieste réparatrice, en se laissant bercer par les mouvements du bac. On croise aussi des amoureux de la nature, fascinés par cet estuaire grandiose à nul autre pareil, des passionnés d'oiseaux, des poètes, des rêveurs, qui prennent le bac pour s'évader. Ils font un petit tour sur la rive gauche ou sur la rive droite de l'estuaire, et rentre un peu plus tard dans la journée avec le sentiment, c'est une question d'imagination, d'être parti en croisière, d'avoir voyagé aux antipodes, aux confins du monde. Il y a les passagers à pied, les cyclistes, les motards, et bien sûr toute une cohorte de véhicules et d'engins en tout genre, parfois des véhicules originaux, des tracteurs, des convois exceptionnels dont la manœuvre d'embarquement nécessite la plus grande attention. De temps à autre, des animaux empruntent le bac, par exemple des moutons de retour d'estive, des chevaux allant participer à des courses ou des concours. Ces jours-là, le bac ressemble quelque peu à une arche de Noé. À l'arrivée à l'embarcadère de Port-Bloc, au Verdon, le voyageur n'est qu'à quelques dizaines de mètres de la gare SNCF de la Pointe de Graves. En haute saison, on peut rejoindre directement Bordeaux par le train. Le reste de l'année, il faut marcher plus de 3 km pour aller prendre le TER à la gare du Verdon, déconseillé si vous avez des bagages. De part et d'autre de l'estuaire, des habitants, des associations, quelques élus se mobilisent pour que cette correspondance entre le bac et le train à la Pointe de Graves, l'intermodalité bac plus train, soit assurée toute l'année pour permettre de se rendre sans prendre sa voiture à Soulac, l'Espart, Blanquefort ou encore Bordeaux, où l'on peut récupérer différentes lignes de tramway, économiques et écologiques. À quelques centaines de mètres de Port-Bloc se trouve le point de départ d'un petit train touristique en direction de Soulac, longé en grande partie entre dunes et forêts par la Vélodyssée. Du bac, le marcheur peut aussi se rendre à Port-Médoc, le port de plaisance, puis longer la plage de la Chambrette, en cheminant sur une promenade en bois aménagée sur plusieurs centaines de mètres. Une autre façon de découvrir les charmes de la rive gauche de l'estuaire. Sur le bac, les conditions de navigation changent souvent. Par temps anticyclonique, on a l'impression de voguer sur un lac, et on peut admirer des crépuscules qui paraissent éternels. L'estuaire est le théâtre d'un jeu de lumière incomparable, digne d'un tableau de William Turner. Mais les conditions peuvent être aussi tempétueuses, avec du vent, de la houle, des paquets d'eau qui s'abattent sur le pont. La traversée est un spectacle sans cesse renouvelé en fonction des caprices de l'océan, des changements de temps, de lumière. Les jours de brouillard, c'est une toute autre atmosphère qui vient envelopper l'estuaire. La traversée se fait au son de la corne de brume. On croise parfois, sans forcément les voir, quelques navires fantômes. Il est très rare que le bac reste à quai, même les jours de gros temps. Pour cela, il faut une décision préfectorale ou, comme pour les avions de ligne, une décision du capitaine s'il juge que les conditions de sécurité ne sont pas requises pour traverser et accoster dans de bonnes conditions. Comme disent les marins, le capitaine du bac reste seul maître à bord, après Dieu. Belle croisière et belle journée à tous.
À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du patrimoine sur Demoiselles.